France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour. Pendant longtemps, l'enseignement de l'histoire s'est attaché à ne signaler que des faits marquants, dates, batailles, conflits, découvertes, règnes, signés de quelques hommes et femmes célèbres. Les choses ont heureusement évolué et on admet le fait social désormais dans le champ historique. Il en est de même dans l'histoire de la musique qui, on le sait, ne se construit pas seulement sur les épaules de quelques grands compositeurs ou compositrices. Intégrer la musique dans l'histoire du monde et pas seulement dans l'histoire des arts, tel est l'objet d'Elisabeth Brisson et Jérôme Thiébaud qui proposent, à travers un récit chronologique, un parcours original de la préhistoire à nos jours. Histoire de la musique occidentale d'Elisabeth Brisson et Jérôme Thiébaud chez Ellipse. Kari Krikou à la clarinette de l'orchestre symphonique de la radio finlandaise dirigé par Sakari Oramo. C'était un extrait de Dom le vrai sens, concerto pour clarinette, Louis très exactement, de Kaya Sarriaho. Bonjour Elisabeth Brisson.
Bonjour Philippe.
Vous êtes agrégée docteur en histoire, autrice de plusieurs livres et travaux sur Beethoven et Berg. Vous avez donc écrit ce livre avec Jérôme Thiébaud qui est agrégé de musique, médiateur et qui a travaillé pour de nombreux orchestres. Donc c'est un livre donc écrit à quatre main. Alors, quand on a le projet, j'ai envie de dire un peu fou quand même, d'écrire une histoire de la musique occidentale, pourquoi ? Est-ce que c'est pour combler un manque ? Est-ce que on fait un état des lieux et on se dit, ben oui, mais finalement, peut-être que les histoires de la musique qui existent sont datées ou ont peut-être un propos ou un parcours, une orientation qui n'est peut-être plus celle qu'on peut rechercher aujourd'hui ? Comment vous avez procédé, Elisabeth Brisson ?
Comment on a procédé ? Eh bien, Jérôme voulait beaucoup écrire une histoire de la musique.
D'accord.
Et lui qui est médiateur, donc il est en plein dedans et il a beaucoup d'idées, il avait beaucoup d'idées très innovantes et qu'il voulait faire passer parce que elles n'étaient pas encore dans les ouvrages qui sont pourtant, moi j'en ai fait un petit qui s'appelle La musique, mais c'était surtout orienté sur l'évolution du langage. Et lui, il voulait pas du tout que ce soit une avec des biographies successives, mais que ce soit intégré dans l'histoire générale, que c'est du sens, parce qu'il il côtoie beaucoup de gens auxquels il essaye de faire découvrir le bonheur que c'est d'écouter de la musique et d'en entendre, enfin je veux dire de suivre une partition. Et il a compris comment est-ce qu'il fallait intégrer dans la vie courante, dans les préoccupations, dans les références que les gens avaient d'histoire. Alors, pensons à Marignan ou pensons à Louis XIV. Mmh. Et que ce soit pas une histoire parallèle, mais que la musique fasse partie de l'histoire.
Donc, on avait compris, ce n'est pas un dictionnaire, ce n'est pas une encyclopédie, ce n'est pas une histoire du langage, vous venez de le dire, ni du style, ni l'évolution du style musical. Donc, ce n'est pas non plus un ouvrage collectif. Travailler à deux, qu'est-ce que ça change par rapport à un travail justement collectif, qui est souvent le cas quand on a une histoire de la musique.
Oui, au départ, on s'était dit, on va demander à un tel, et puis finalement, on avait quand même une vision qui était très personnelle et qu'on a élaborée au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il y avait comme idée de pas faire des biographies, de pas faire des fiches les unes après les autres, de partir des œuvres.
C'est ça.
Et donc progressivement, on a élaboré les éléments. Moi, j'ai commencé, par exemple, à faire sur Jules César de Handel. Mmh, mmh. J'ai pris comme modèle. J'ai analysé j'ai donné le contenu. Et puis à partir de là, ce qu'on a appelé tirer les fils. Donc, qu'est-ce que c'est que l'opéra seria? Quelle est la politique de qui est Handel? Où ça se situait? Pourquoi en Angleterre et pas à Hambourg, pas à Paris, etc. Donc, à partir de là, on donne tous les éléments. Enfin, tout. On donne les éléments essentiels de ce qu'est ce genre d'opéra, et on a en même temps une œuvre. Et là, on a vu que ça fonctionnait, donc on est reparti sur d'autres œuvres, des œuvres qu'on appelle emblématiques, hein, et Jérôme, lui, qui connaît très très bien toutes les musiques, a ajouté des œuvres qui étaient célèbres à leur époque et qui ont été oubliées. Donc, faire ce qu'il appelait des contrepoints. Alors ça, c'était valable pour le moment où il y avait des œuvres avec partition. Mais moi, je lui ai proposé qu'on fasse aussi l'histoire de la musique depuis les origines. Au départ, il voyait pas très très bien de quoi il s'agissait. Et bon, moi, je me suis essayé, là aussi, je me disais, tiens, je vais faire, qu'est-ce que c'est la musique au temps de la reine Néfertiti, au temps d'Amourabi, au temps de Périclès. Et heureusement, il y a une exposition formidable au Louvre-Lens sur l'archéologie musicale. Et alors là, j'ai eu des éléments formidables, contemporains. Parce que moi-même, j'avais déjà fait des histoires, enfin, de l'histoire de cette histoire, mais j'avais pas tous ces éléments nouveaux. Donc, on a pu intégrer cela. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas regarder du côté de la préhistoire. Et alors, on a découvert donc qu'il y avait une musique et de la préhistoire, et qui permettait aussi d'entrer dans le débat, de savoir est-ce que les hommes de la préhistoire étaient des artistes. À partir du moment où on est homme, on est artiste.
l'ensemble Wilgas sous la direction de Paul Van Nevel. C'était un extrait de Nuper Rosarum Flores de Guillaume Dufay, un motet composé pour la consécration de la cathédrale de Florence en mars 1436. Elisabeth Brisson, donc la musique intégrée dans la société, c'est l'objet de votre livre. Là, bon, là, c'est une, il y a un événement historique, religieux, social, politique, j'ai envie de dire. Mais on voit qu'à travers toute la lecture de votre livre, la musique se glisse toujours dans la société et non pas, c'est pas un divertissement, ça n'est pas quelque chose en plus, mais c'est quelque chose qui prend racine dans la société.
Et vous avez tout à fait bien compris.
Bon, ça va, alors.
Donc,
c'est un bon début.
Ouais. C'est une musique, oui, qui a du sens pour ceux qui la composent et qui la diffusent. Et elle est organisée, là, par exemple, c'était pour la consécration donc de Sainte-Marie aux fleurs de Florence. Florence, ouais. Et Guillaume Dufay a composé son chœur, son motet, qui était avec des 6 voix donc différenciées, et il a composé en fonction de ce que Brunelleschi a fait pour construire sa coupole.
L'architecte, c'est-à-dire il a tenu compte des proportions pour concevoir son œuvre, c'est ça, ouais.
Voilà. Ouais. Et alors, il a composé cela, c'était une nouvelle façon de composer, à partir d'un, ce qu'on appelle un cantus firmus, c'est-à-dire un chant de base, qui lui permettait ensuite d'avoir des voix qui s'élevaient dans l'espace de cette coupole. Et combien, et c'est Jérôme Thibault surtout qui a mis ça en évidence, que l'espace de l'église a eu un très très grand rôle, la notion spatiale, hein, de l'église a un grand rôle sur la musique, sur la conception de la musique, sur l'évolution de sa musique, de la musique surtout à partir du moment où il a écrit. Donc la cathédrale, enfin de l'église romane à la cathédrale gothique et là, Sainte-Marie aux fleurs. Donc c'est la musique occidentale est incompréhensible sans avoir à l'idée, dans la tête, quoi, les lieux où elle devait se développer.
Oui, ce qui une fois de plus détruit l'image d'Épinal de l'artiste enfermé dans sa tour d'ivoire et totalement coupé du monde, ça n'a absolument aucun sens. C'est un pur fantasme romantique, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que ça ne correspond à aucune réalité, ni historique, ni sociale. Elisabeth Brisson, vous venez de parler donc des compositeurs, donc ceux qui écrivent de la musique. Les architectes, ceux qui bâtissent les salles dans lesquelles cette musique va résonner, mais vous parlez aussi du public. Qui va écouter et recevoir cette musique? C'est aussi important de voir à qui on s'adresse.
Oui, là, c'était ceux qui étaient, pour Dufay, là, ceux qui étaient admis dans cette église. Mais sinon, au départ, Dufay, c'est l'exemple même de ces artistes qu'on appelle franco-flamands, qui a été élevé à Cambrai. Il y avait une très grande école cathédrale de musique et qui a été ensuite demandé par les princes italiens, puis par le duc de Bourgogne. Donc, si je cite ça, c'est pour dire que le public, là, c'était un public d'aristocrates.
Oui, bien sûr. Hein, oui.
D'aristocrates, de lettrés qui comprenaient, qui suivaient ou qui désapprouvaient. Hein,
Mais vous parlez aussi ailleurs, un peu plus tard, on remonte l'échelle du temps, aussi de la réception, de la façon dont le public pouvait écouter, recevoir la musique. Ça aussi, il faut en tenir compte dès qu'on appréhende l'histoire de la musique.
Oui, à toutes les époques, hein, de toute façon, l'importance. Donc, le compositeur, il est, comme vous avez Caria Sariao, là, au début, elle est originale, mais en même temps, elle répond à une commande, elle a sous la main un certain instrumentarium, comme on dit, elle a aussi derrière elle toute une histoire de l'écriture musicale, et il y a ceux qui vont écouter et qui vont aussi critiquer. Thank you.
Marc Minkowski est à la tête des musiciens du Louvre. C'était une ritournelle extrait du troisième acte d'Hippolyte et Aricie de Jean-Philippe Rameau. Elisabeth Brisson, on a compris, je crois, que votre histoire de la musique occidentale coécrite avec Jérôme Thiébaud n'est donc pas une succession de fiches biographiques de compositeurs. Donc on ne trouvera pas une biographie de Jean-Philippe Rameau, mais il y a un chapitre consacré à Hippolyte et Aricie, donc le premier opéra composé par Jean-Philippe Rameau, 1733. Donc c'est un parcours, vous proposez un parcours à travers les œuvres. Alors vous le dites dans votre introduction, c'est évidemment un choix, hein, un parcours personnel que vous avez fait à deux, je suppose. Comment avez-vous justement retenu telle œuvre plutôt que celle-ci plutôt que cela, plutôt que celle-là ?
On les a retenus pour leur importance historique. Mmh. Alors, par exemple, Hippolyte et Aricie, c'est le premier opéra de Rameau, et qui est une opéra tragédie lyrique, hein, de Rameau, qui a suscité énormément de querelles. Et il y a ceux qui étaient opposés à Rameau, que l'on appelait les, qui critiquaient ceux qui soutenaient Rameau en disant les rameurs. Donc, parce que Hippolyte Aricie, c'est une espèce de césure entre l'héritage de Lully, la tragédie lyrique qui s'oppose elle-même à la tragédie littéraire. Hein. Mm-hmm. C'est l'inverse de cette tragédie qui est sur les théâtres. Et elle innove aussi parce que Rameau a apporté quelque chose de nouveau dans la théorie de la musique, et il a, pour lui, l'important c'est l'harmonie. Il y a son traité d'harmonie en 1722 qui est contemporain d'ailleurs du clavier bien tempéré.
Exactement, c'est la même année, oui, le premier livre.
Oui, de Bach. Ouais. Donc c'est une façon nouvelle de concevoir l'écriture musicale, non pas à partir de la mélodie à laquelle on va donner des soutiens, mais à partir des résonances qui sont elles-mêmes dans l'émission d'une sonorité, d'un son.
Mais alors, j'imagine que pour certains compositeurs, déjà pour Rameau, mais je pense à Bach ou à Mozart ou à Beethoven, choisir une seule œuvre, ça a dû être quand même un casse-tête ou un crève-cœur, je ne sais pas comment il faut dire.
Oui.
Beethoven, il y a l'héroïque, Mozart, il y a l'enlèvement au sérail, si j'ai pas de mémoire.
Oui, mais alors on a...
Bach, c'est la passion sur le Saint-Jean.
Oui, ce sont des œuvres qui sont reliées à de l'histoire, je veux dire. Vous parlez de la passion selon Saint-Jean, évidemment, ça pouvait être selon Saint-Matthieu. Oui. On en parle aussi, mais c'est pas ce qu'elle est plus courte, mais pour montrer l'importance de ce qu'est une passion dans la religiosité, enfin, la façon de pratiquer la religion du temps de Bach. Qu'est-ce que c'est que la musique religieuse du temps de Bach? Pour Beethoven, nous avons intégré plutôt la musique de Beethoven dans la conception, dans l'héritage de la Révolution, on a pris celle qui était le plus possible du côté de l'héritage révolutionnaire. Évidemment, on parle de la troisième, mais on parle de la cinquième, parce que la cinquième...
Oui.
Et alors, pour Verdi ou pour Wagner, le choix, c'est parce qu'on a mis ces opéras dans le cadre des musiques nationales. Comment est-ce que au milieu du 19e siècle, chaque peuple, chaque culture impose son choix à lui de modalité musicale.
Mais Elisabeth Brisson, je comprends bien, le public écoute la musique, évidemment, que lui proposent les compositeurs de son temps, mais est-ce que, dans l'autre sens, est-ce que le compositeur est toujours à l'écoute de son temps ?
Il anticipe toujours.
Ce que
dit très bien beaucoup Rechleff, la musique, la création musicale, c'est extraordinaire. C'est vraiment une anticipation de ce qui va se passer. Alors, pensons à ce que Proust dit sur l'équateur de Beethoven. D'ailleurs, ils comprendront... Enfin, c'est une phrase qu'on prête à Beethoven, ils comprendront plus tard. Mais ce que Proust dit, c'est que ce sont les quatuors de Beethoven qui ont créé leur public et qui ont mis presque un demi-siècle à créer leur public. Ou la 9e symphonie, les Français, ils fixent ce truc. Et d'ailleurs, on mettait les chœurs d'un côté et l'autre symphonie avec. Donc c'était l'œuvre d'un fou. Hein, il était ça allait plus. Donc alors que maintenant, c'est l'œuvre emblématique de la culture occidentale partout, même au Japon.
Ouais. Mais donc le compositeur est toujours quand même s'il est en avance, mais il est quand même toujours de son temps, il a quand même intégré à son époque.
Alors là, tout à fait. Et là on ne peut pas dire autre chose. Il est le produit d'une culture et il fait avancer sur autre chose.
Mmh.
Edna Stern sur un piano Pleyel de 1860, c'était l'étude pour piano numéro 104 en sol dièse mineur d'Hélène de Montgeroux. Elisabeth Brisson, dans ce livre que vous avez écrit donc avec Jérôme Thiébaud, Histoire de la musique occidentale qui vient de paraître chez Ellipse, vous faites une grande part aux compositrices et notamment à la fin, sur ce livre qui compte quand même 750 pages, il y a une soixantaine de pages qui est un aperçu, dites-vous, aperçu chronologique des compositrices et compositeurs. On commence au 23e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la chinoise Du Yun et son Angel's Bone qui a eu le prix Pulitzer en 2017. Il y a beaucoup de compositrices, certaines sont assez oubliées, je dois dire. Là aussi, c'était une volonté.
Oui, c'était une volonté de redonner une place aux femmes dans l'histoire de la musique, dans la composition, dans la sensibilité musicale, et montrer à la fois à la période baroque, elles ont eu une place très importante comme compositrices, mais évidemment aussi comme interprètes, pour Vivaldi par exemple. Mais de cet interprétariat, elles ont aussi, il y en a qui ont fait leur musique, qui ont composé, qui étaient jouées. Et alors, il y a évidemment les malheureuses du 19e siècle, les Fanny Mendelssohn et Clara Schumann. Qui ont été empêchés par la pression bourgeoise d'une femme qui, c'était aussi du machisme que les hommes se gardaient toute la place. Et au 20e, alors pourtant, au 19e siècle, si on étudie la romance, on voit l'importance qu'ont eu les femmes dans l'évolution de la sensibilité musicale.
Et la musique qu'on vient d'entendre, celle d'Hélène de Montgeroux.
Alors, c'est une femme qui est née à la fin du 18e siècle, donc avant la Révolution française, qui a sauvé sa peau pendant la Révolution, et qui a été pianiste, qui a été une des premières femmes à être professeure au conservatoire, a été créée en 1795 pour le piano, et elle n'est pas restée très longtemps, mais c'est pas le problème, ça. C'est qu'elle a fait attention beaucoup à la pédagogie et à la diffusion de la musique. Elle a composé donc beaucoup d'œuvres qui sont des études. Alors les études de Czerny, tous les pianistes disent c'est pas très très musical.
Oui, c'est parfois un peu rasoir.
Oui, c'est ça. Alors qu'avec cette femme, il va y avoir c'est un nouveau genre qui apparaît dont Chopin, Liszt vont
s'emparer également. Oui, ils vont contribuer. Oui, tout à fait.
C'est
ça. Oui.
C'est à la fois la technique du piano, la technique, c'est aussi, ça peut être des études pour le violon, pour un instrument, la technique, les difficultés techniques, comment est-ce qu'elles peuvent devenir quelque chose de musical. Et pour continuer sur ces études, eh bien, on peut aller au 20e siècle avec Berio et les Sequenza. Sur chacune, pour chacun des instruments, l'importance, alors pour Berio, aussi de sa femme et de Cathy Bermaillon qui va interpréter.
Ces compositrices que vous signalez donc dans cet aperçu chronologique de compositrices et compositeurs, Elisabeth Brisson, comment les avez-vous choisies avec Jérôme Thiébaud? Parce que certains noms qui sont quand même assez oubliés, est-ce que c'est une sorte d'appel à les faire sortir du silence?
Oui. Et Jérôme, qui est un jeune homme encore, il a voulu absolument qu'il y ait la parité et il a dû enlever des hommes pour que ce soit pas trop long et qu'il y ait les femmes redonner donc une place et montrer combien elles ont été importantes. Ben il y en a même qui étaient compositrices d'opéra.
Aujourd'hui, on a l'impression quand même que des compositrices, on en entend de notre temps, on en entend de plus en plus.
Maintenant vous avez commencé par une compositrice. Oui. Alors c'était sur un conseil d'une amie qui est chargée de la culture en Suède et bientôt à Vienne et qui nous a dit il faut mettre des compositrices. Et alors donc ça puce à l'oreille.
Moi très bien. Bon entendeur. Alors je rappelle Elisabeth Brisson le livre que vous avez coécrit avec Jérôme Thiébaud, Histoire de la musique occidentale qui vient de paraître chez Ellipse. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, la technique Xavier Lévesque, attaché de production Annick Aumier. La semaine prochaine, je vous emmène visiter les riches collections du Musée de la Musique à Paris, en compagnie de sa directrice Marie-Pauline Martin. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée, une excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.